Les condamnés jouent au poker, leur appétit. Et laissent au suivant leur part de Jamaïque. Le coup de grâce dans le vent est liturgique. Misérere, Seigneur, du fond des pilories. L'estomac du commun se met en diagonale. Le traiteur donne aux chiens cette pitié tarifée. Les boueux ont glissé sur des pots d'orchidées.
Misérere, Seigneur, du fond des capitales.
De l'amour sont pleines à craquer. Les je t'aime publics assomment les affiches et les adolescents ont des lèvres postiches.
Misérere, Seigneur, du fond des oreilles.
Passer les voyelles, les ortolans prennent le frais dans le commun, et le saumon fumé boude le tapioca.
Misérere, Seigneur, du fond de nos gamins.
Les femmes en gésine inondent de pavés. Le mineur fait un blanc à chaque lavabo. Et le souffleur de baccarat fait des pancos.
Misérere, Seigneur, du fond des encavés.
Panurges attendent au vestiaire. Les visages escomptés percutent sur l'azur. La queue chez l'épicier jouit contre le mur.
Misérere, Seigneur, du fond des muselières.
La ville a dégrafé son corsage de mort. Les balles dans la rue ont la poudre nomade. Les pavés font la main aux yeux des barricades.
Misérere, Seigneur, du fond éternidant.
Cernés sentent le roussi. Les magazines font la pige aux évangiles. Et les chemins de croix se font en crocodile.
Misérere, Seigneur, du fond des crucifix.
Titre en deuil la putain des frontières. la fleur fane au fusil et meurt sous un drapeau. Il était...
Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, interrogez les rues d'un gars sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète, monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marceau Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry-Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. D'un rythme de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de mes petits futurs, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
.4 Radio Libertaire, vous êtes sur l'émission du groupe Louise Michel, Pas de Quartier. Et aujourd'hui, on va faire une émission un peu spéciale pour parler de l'actualité de la Palestine. Et pour ce faire, on reçoit Monira. Bonjour Monira.
Salut.
Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs?
Je m'appelle Monira, je suis animatrice de la campagne BDS et j'anime aussi des formations sur la Palestine.
Alors c'est quoi la campagne BDS?
La campagne BDS, c'est une campagne qui a été lancée par les Palestiniens en 2005. BDS, ça veut dire boycott, désinvestissement, sanctions. Cette campagne, elle a été lancée pour faire face à l'occupation et à l'apartheid. Elle a trois revendications qui sont la fin de l'occupation et de la colonisation et le démantèlement du mur qui a été jugé illégal en 2004. L'égalité des droits entre Palestiniens, Israéliens, Israéliens-Palestiniens, et le droit au retour des réfugiés. Donc, c'est les revendications de la campagne, et la campagne, elle vise à boycotter les complicités et sanctionner Israël pour les violations du droit international.
D'accord. Bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir ultérieurement. Mais pour comprendre de quoi on parle quand tu dis par exemple qu'elle milite pour le retour des réfugiés, il faut se pencher un peu sur l'histoire de la Palestine. Donc Palestine, territoire historiquement d'abord dans les siècles précédents à l'occupation britannique appartenant à l'Empire ottoman. Territoire qui passe sous mandat britannique après la fin de la Première Guerre mondiale, mais on a déjà à cette époque-là des mouvements indépendantistes arabes qui revendiquent une autonomie politique sur ce territoire. Et dans cette continuité coloniale vient se greffer donc la création de l'État d'Israël. Et est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Alors, le projet sioniste, il faut tout d'abord recontextualiser. Le projet sioniste, c'est un projet qui est européen. C'est un projet qui date de la fin du 19e siècle, donc qui s'inscrit dans le cadre des grands projets coloniaux européens et qui reçoit du coup l'appui de l'Empire britannique, qui est aussi un empire colonial, et dans une moindre mesure de l'Empire français, qui d'ailleurs, eux, ont des intérêts au Moyen-Orient qui sont assez clairs, et qui, pendant les accords Sykes-Picot, se sont partagés le Moyen-Orient entre l'Empire français et l'Empire britannique. Donc, vraiment, c'est sur ces bases que le sionisme arrive. Donc, le sionisme, dès la fin du 19e, Theodor Herzl, il théorise le sionisme, et il commence à essayer d'organiser un mouvement qui sera le mouvement colonial qui va aller s'installer en Palestine. Le projet colonial israélien, au départ, il n'a pas de territoire spécifique. C'est-à-dire qu'au début, il y a des discussions de s'installer en Ouganda, voilà, la recherche de...
Et l'Argentine aussi, je crois, qui est...
Ouais.
Madagascar, non?
Aussi Madagascar. Oui. Il y avait l'Afrique.
Ouais, il
ah oui, enfin, bon, Mariama, du groupe Louise Michel, François, du groupe Louise Michel. Samuel a oublié de
J'ai
préciser
oublié
que...
de présenter les autres invités, c'est n'importe quoi.
Voilà.
C'est l'anarchie ici.
C'est l'anarchie, non.
Non.
C'est l'ego super développé, quoi.
Bien. Donc revenons à Herzl. Voilà. Effectivement, ils avaient ciblé d'abord l'Afrique comme territoire à coloniser, et ensuite le choix s'est porté sur la Palestine en troisième position.
Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi ils ont choisi la.
Et en fait, le choix justement se porte sur la Palestine parce que Herzl, qui est athée, qui est pas croyant. Comprend qu'il va pouvoir peut-être avoir un appui des religieux dans ce projet colonial. Et du coup, la Palestine, ça fait référence à une histoire juive ancienne. Et du coup, ça permet de justifier. En fait, il y a quelque chose chez les juifs qui est important et qui existe depuis très longtemps. C'est une aspiration philosophique à retourner à Jérusalem.
Théologique aussi.
Voilà, théologique et philosophique. Et quand alors ça c'est perçu de différentes manières selon les positionnements des juifs. Il y a des juifs qui pensent que c'est vraiment quelque chose de spirituel et que c'est pas un appel à se rendre physiquement à Jérusalem, et puis il y a des gens qui prennent le terme plus de façon plus terre à terre et qui disent qu'il faut retourner à Jérusalem.
Et donc quand se décide le fait d'aller en Palestine, il y a des gens qui sont déjà sur place, qui habitent déjà sur place. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les différents empires coloniaux et principaux belligérants de la Première Guerre mondiale ont joué sur les nationalistes arabes pendant la guerre contre l'Empire ottoman, en leur disant « Vous nous aidez dans notre guerre contre l'Empire ottoman, et nous, en échange, on vous promet l'indépendance une fois que la guerre est finie. » Bon, finalement, l'histoire a montré que ce n'est pas ce qui s'est fait. Et donc, on arrive à la date de 1948, date importante, date de la Nakba. Donc, est-ce que tu peux dire ce que c'est ?
Alors, peut-être juste un peu avant d'arriver à la date de la Nakba, pour garder un petit peu la continuité historique. Donc, il y a des implantations de colonies juives qui commencent à exister en Palestine dès les années 20. c'était le début des années 20. Et tout de suite, la logique, elle est vraiment coloniale. Parce que je dis ça parce qu'on entend d'autres versions comme quoi Israël serait un projet décolonial et tout. Mais le projet, il est vraiment colonial. C'est-à-dire que les juifs européens qui viennent vivre en Palestine ne sont pas du tout, n'ont pas du tout l'intention d'avoir une position d'égalité avec les Palestiniens et même avec les juifs palestiniens d'ailleurs. C'est pas une question de religion finalement, c'est vraiment une question d'infériorisation des Arabes par rapport aux Européens qui arrivent là-bas. Donc, dès 1929, il y a une grande grève palestinienne qui se révolte contre les vols de terre, les expropriations, etc. Ça, c'est dès 1929. Donc, il y a des résistances qui existent avant la création de l'État d'Israël, c'est-à-dire les Palestiniens, ils ne sont pas restés passifs jusqu'à ce qu'il y ait le plan de partage. Ils étaient déjà mobilisés, mais ils n'étaient pas mobilisés dans un rejet des personnes juives qui arrivaient d'Europe. Ils étaient mobilisés pour une égalité. Et du coup, ça, c'est hyper important de dire que les Palestiniens ont accueilli les Juifs européens. Et c'est aussi important de dire que les Palestiniens ne sont absolument pour rien dans le génocide européen. Et ils n'ont rien à voir avec ça, c'est pas leur histoire. Et c'est important de se décentrer un peu de l'Europe quand on parle de la Palestine, parce que nous, tout ce qu'on a en tête sur l'histoire de l'Europe qui a déporté des Juifs, qui les a envoyés dans des camps de concentration et qui les a exterminés, qui a organisé un génocide, ça, c'est une histoire qui n'est pas palestinienne. Et du coup, ils n'ont pas du tout ce logiciel. Et je trouve que c'est important de le redire, que c'est une histoire très européenne. Et du coup, on arrive à 1947. On va très vite parce qu'on n'a pas 8 heures devant nous pour faire tout l'historique. Mais en gros, en 1947, il y a un plan de partage à l'ONU. Et ce plan de partage, il n'est pas accepté par les Palestiniens, évidemment. Parce que les Palestiniens, leur position, c'est que les Juifs peuvent venir vivre en Palestine, mais qu'ils ne veulent pas découper le territoire, ils ne veulent pas faire une partition. Malheureusement, ils ne sont pas écoutés et les choses, elles sont faites contre eux. Il faut rappeler aussi qu'à cette époque, tous les pays du sud global, on dit maintenant, qui auraient voté contre ce projet de partition de la Palestine, sont colonisés. Donc à ce moment-là, tous ces pays-là ne peuvent pas s'opposer. Donc c'est vraiment les pays, les puissances occidentales qui décident de cette partition, en gros. Cette partition, dès le début, elle ne laisse pas véritablement de possibilité de créer un État palestinien, puisque dès 1947, la partition, elle donne à la Palestine déjà moins de la moitié du territoire pour beaucoup plus de population, mais aussi elle donne à la Palestine un territoire discontinu. C'est-à-dire que ce qu'elle donne à la Palestine, en fait le partage il est fait avec un État d'Israël qui a un territoire continu, donc qui est viable, mais un territoire palestinien qui n'est pas continu, et donc avec une zone au nord près de la frontière avec le Liban, la Cisjordanie, une bande de Gaza beaucoup plus grande que maintenant, mais voilà, la bande de Gaza, et une petite enclave qui est la ville de Jaffa. Du coup, c'est 4 territoires. C'est des territoires, si on se dit, bon, ok, il y a un État palestinien sur ces territoires, ça veut dire que pour passer d'un endroit à l'autre, il faut passer par des routes israéliennes. Donc il n'y a pas de véritable possibilité de faire un État de cette façon. Et Israël le sait, c'est-à-dire que ça a été organisé dès le début pour, d'une part, Israël se réserve un accès, une large façade sur la Méditerranée, un accès au Jourdain, un accès à la mer Morte, un accès à toutes les sources d'eau possibles. C'est un enjeu hyper important, l'eau en Israël-Palestine. Et ça arrange pour, dès 1948, grignoter tous les territoires. Et c'est ce qui s'est passé avec la Nakba. Donc la Nakba, c'est, ça veut dire catastrophe en arabe, et c'est la catastrophe des Palestiniens. C'est dès le lendemain de la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël. Il faut revenir aussi sur cette formule, parce que l'indépendance, normalement, c'est des pays qui ont été colonisés, occupés et tout, qui se libèrent et du coup, ils deviennent indépendants. Et là, au lieu d'appeler ça la création de l'État d'Israël, ils appellent ça l'indépendance d'Israël. Donc c'est déjà le délire de décolonisation et tout ça. Il y a déjà dans le vocabulaire une volonté de brouiller.
C'est le début d'une guerre sémantique, quoi, on peut le dire, qui est menée, qui est partie intégrante de cette guerre. Et il me semble aussi que sur les territoires, ce qui est assez inégalement réparti, c'est la qualité des terres, quoi, où les Palestiniens se retrouvent avec beaucoup de déserts. Et Israël se retrouve avec la majorité des grands centres urbains, et t'as dit des accès à l'eau, des lieux, on va dire, stratégiques un peu, quoi, dans la région.
Ouais, alors, quand même, le désert du Negev, il est donné à la Palestine, mais la façon dont est entourée la Cisjordanie fait que l'accès à l'eau et aux frontières avec les autres pays aussi est préservé pour Israël.
Ouais.
Du coup, ça permet à Israël de contrôler vraiment tout le territoire, en fait. Et c'est un projet qui est comme ça dès le début. Et donc, en 1948, 700 000 Palestiniens sont chassés de chez eux. Et ils pensent qu'ils vont partir pendant la guerre et qu'ils reviendront. Donc, ils emportent avec eux la clé de leur maison en pensant qu'ils vont se réfugier quelque part à un moment et qu'ils reviendront. Ça c'est important aussi parce que ça explique pourquoi aujourd'hui les Gazaouis ne veulent pas quitter Gaza alors que Israël essaye de les pousser en Égypte. Ils savent très bien que s'ils acceptent de partir, c'est une deuxième Nakba et qu'ils reviendront pas, puisque du coup les réfugiés palestiniens qui ont été chassés en 1948 n'ont jamais pu revenir.
Alors il faut préciser que c'est un nettoyage ethnique. 85% de la population est chassée de chez elle.
Ouais.
Mettons le mot, il faut.
C'est vrai.
Ça va ouais, être, je suis d'accord.
On va maintenant, dans cette émission, comme elle s'appelle Pas de quartier, on va pas faire de quartier sur les mots, on va dire les mots qui fâchent. C'est un nettoyage ethnique. La Nakba, c'est ça.
Ouais.
Et ensuite, découle un apartheid, un développement séparé.
Ouais, tout à fait.
De deux populations.
Ouais, tout à fait. Et dès le. Il y a ces 700 000 Palestiniens qui sont chassés, mais il y a aussi plus de 400 villages qui sont détruits. Donc il y a vraiment une volonté de détruire la présence palestinienne. Et il y a une reconstruction de villages sur les ruines des villages palestiniens. Une reconstruction d'un nouveau lieu en effaçant les traces des gens qui ont vécu. Et il faut savoir que parmi les réfugiés, parce que ça, les gens ne le savent pas beaucoup, mais il y a énormément de réfugiés qui sont dans Gaza. C'est-à-dire qu'ils ont été chassés d'une autre partie de la Palestine et qui se sont retrouvés dans Gaza.
Il y en a aussi une bonne partie dans des camps dans les pays frontaliers, en Syrie, en Jordanie, etc.
Quoi. Au Liban.
Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des camps de réfugiés palestiniens en Jordanie, en Syrie, au Liban, donc dans tout le pourtour. Mais aussi après. Non, pas en Égypte.
Ils sont assez opposés aux Palestiniens, en fait. Le gouvernement actuel.
Le gouvernement actuel est vraiment un gouvernement autoritaire et
bon client des armes françaises, soit dit en passant.
Complètement.
Ah, t'es jalouse, toi.
Complètement. Du coup, c'est les Palestiniens qui ont été, qui se sont retrouvés dans des camps de réfugiés. Il y a aussi des camps de réfugiés à l'intérieur même de la Cisjordanie, voilà.
Je voudrais te poser une question. Pourquoi ça s'appelle la Cisjordanie ? C'était à la Jordanie avant ? Ou c'est un endroit qui s'est de tout temps appelé la Jordanie ?
Bah, écoute,
à cause du fleuve Jourdain.
Je ne sais plus. Je pense que je l'ai su, mais je ne sais plus. Tu sais, toi ?
J'avoue que tu me poses une colle.
Ouais.
Non, mais il n'y a jamais eu de.
Mais c'est en lien avec la Jordanie à proximité, mais alors oui. Je ne sais pas précisément.
Il n'y a jamais eu le désir de la Jordanie de récupérer cette portion de territoire. C'est une question ouverte, je ne connais pas la réponse.
En fait, il y a eu, une volonté avec un mouvement pan-arabe. Dont vous avez certainement entendu parler, avec Gamal Abdel Nasser, qui dans un pied de nez un peu aux empires occidentaux décident de nationaliser le canal de Suez. Et il y a un projet comme ça de fédérer les pays arabes et d'en faire un espace, pas sur le modèle des États-nations justement, mais sur un autre modèle, parce que c'est aussi intéressant de comprendre que Israël, c'est aussi la création d'un État-nation européen au milieu du Moyen-Orient. Et ça, c'est pas un modèle. Je veux dire, les États-nations, ça a été créé comme ça avec la colonisation et tout, mais c'est pas un modèle qui est
local.
Ouais, déjà, c'est pas un modèle local, mais en plus, c'est pas un modèle forcément qui coule de source.
Non.
C'est-à-dire que c'est pas un modèle naturel, etc. Il y a plutôt des petites autonomies, voilà, des gouvernements autonomes dans plein d'endroits, mais il n'y a pas forcément des États comme ça, avec la langue, les frontières.
C'est comme ce qui s'est passé en Afrique, hein, Mariama.
1865,
les pays, ce sont des États-nations africains, mais qui
ont été découpés
respectent
à la règle.
Scrupuleusement des frontières complètement artificielles tirées au cordeau à la règle.
C'est pour ça que c'est aussi bien géographiquement certains pays africains, c'est parce qu'il y a la règle. Ils ont fait des tirages à la règle.
Donc c'est bien que tu précises que
c'est un projet colonial.
Les Palestiniens n'avaient pas l'impression d'habiter un État-nation. Voilà, ça c'est important, je crois.
Ouais. Ils n'habitaient pas un État-nation, effectivement. Et du coup, il y a une identité palestinienne, il y a un sentiment d'appartenance palestinien. Mais c'est aussi, je pense qu'il faut le dire aussi, parce que c'est un argument des sionistes, de dire oui, mais il n'y a jamais eu d'État palestinien. Mais en fait, on peut s'autodéterminer dans autre chose qu'un État. Mmh. Et ça, c'est aussi important de le dire, que l'autodétermination des peuples, elle dépend pas forcément d'un État-nation. Et dans le monde, il y a des exemples, notamment le Rojava, les Kurdes, de peuples qui s'autodéterminent en tant que peuple, ou qui visent à s'autodéterminer et qui n'ont pas d'État-nation.
Oui, qui empiètent sur... Enfin, excuse-moi, j'emploie le vocabulaire des colonialistes, mais qui se disputent des portions de territoire sur quatre pays. Ils sont mal barrés, les Kurdes.
Ouais, le Kurde, ouais.
Après, ils ne sont pas forcément dans une unification de tous les Kurdes, etc. Et il y a des modèles différents aussi parmi les luttes des Kurdes. Ouais. Ils ne sont pas tous sur le modèle d'un État-nation. Il y a aussi des volontés juste d'autonomie et d'autodétermination sans mettre ça dans le cadre d'un État-nation.
Mais tu as raison en tout cas de rappeler que c'est bien une création coloniale et une importation occidentale d'un modèle de gouvernement qui n'avait rien d'universel, bien qu'il s'en donne l'apparence aujourd'hui du fait qu'il se soit universalisé, dans le processus colonial principalement. Mais donc effectivement, en 48, quand on a la création de l'État d'Israël, on a la création d'un État-nation sur modèle occidental colonial, européen. Et là, à ce moment-là, débute vraiment, on va dire, ne débute pas, parce qu'on a dit qu'il avait des racines profondes, mais on va dire c'est une étape majeure, centrale du développement du process colonial israélien, qui ensuite va connaître différentes étapes. Est-ce que tu pourrais rappeler les principales étapes qu'a connues cette colonisation jusqu'à aujourd'hui? Les dates clés, quoi.
Du coup, la colonisation de 48 à 67, elle est continue. Hein. Il y a un grignotage des terres qui est assez régulier, etc. En 67, il y a la guerre qu'ils appellent des six jours. Donc, il y a toujours des noms. Il y a les noms qu'on connaît ici en France. Mais les Palestiniens n'ont jamais ces mêmes noms pour les mêmes événements historiques. C'est-à-dire que la guerre des six jours, il me semble que chez les Palestiniens, elle est appelée la guerre d'octobre, par exemple. Donc c'est pas vraiment... Et la guerre des six jours, c'est appelé comme ça, en référence à la Bible, en six jours, il a fait la terre, le septième jour, il s'est reposé, etc. Donc il y a vraiment toujours ces références qui apparaissent tout le temps partout, et même aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, mais aujourd'hui, dans le discours israélien, il y a plein de petits trucs qui sont glissés et qui sont comme ça des références à des clichés un peu
bibliques,
qui existent.
Biblique, ouais.
Pas forcément biblique, mais autre aussi, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais il n'y a pas que ça, par exemple, dans... Là, je vais vraiment trop loin par rapport à ce dont on discute, mais Par exemple, quand Israël invente l'histoire des 40 bébés égorgés, là, il y a eu un article sur Haaretz qui détaille tous les morts israéliens qu'il y a eu pour le moment. Ils en ont dénombré 1007. Aujourd'hui, je suis allée vérifier parce que c'était il y a quelques jours, c'était à 900. Là, ils ont dénombré 1007 et donc ils font le détail. Ils ont mis la photo de chaque personne, qu'est-ce qu'elle faisait, etc. Et il s'avère que dans Haaretz, ils expliquent que c'était beaucoup plus des soldats que ce qu'on pensait. Il y avait une beaucoup plus grande proportion de soldats que ce qu'on pensait. Et qu'il n'y a aucun... en tout cas, quand j'ai regardé, il n'y avait encore aucun enfant de moins de 4 ans qui faisait partie des victimes. C'est-à-dire que l'histoire des 40 bébés décapités est en train de se dégonfler complètement. Mais ça fait partie de la propagande de guerre israélienne de sortir des trucs comme ça. Et après, quand ce sera vérifié et qu'on dira que ce n'est pas vrai, mais ce sera trop tard parce que ça aura marqué les esprits.
L'effet aura marqué,
exactement.
Marqué, oui, bien sûr.
Alors, et du coup, cette histoire de 40, c'est le truc de Ali Baba et les 40 voleurs, tout simplement. C'est des chiffres comme ça qui font référence à des mythes. Mmh. Voilà. Donc c'est pas forcément biblique, ça peut être aussi
les mythes.
Voilà.
Alors on en reviendra dans les parties ensuite, plus en avant. L'autre, après la guerre des six jours, nous avons.
Alors en 1967, du coup, il y a. Alors il faut savoir que Israël a attaqué alors qu'il y avait un accord avec les pays arabes qui devaient pas attaquer. Les pays arabes alentour ont respecté cet accord et Israël n'a pas respecté cet accord. Donc après ils ont parlé de victoire militaire etc, mais c'est une guerre qui a été une guerre surprise quoi, où la parole donnée n'a pas été respectée. Après 1967, du coup c'est la colonisation qui continue et c'est la mise en place clairement de lois qui vont devenir les lois d'apartheid qui existent actuellement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une obsession de la menace démographique. Et du coup, il y a des Palestiniens qui vivent à l'intérieur de l'État d'Israël. Et il s'agit à tout prix de maintenir ce chiffre de Palestiniens qui habitent en Israël en dessous d'un nombre qui serait critique pour Israël. Donc ça passe par des
Il parle de grandes remplacements en quelque sorte.
Exactement.
Bah, en fait, c'est ça qui est intéressant et on voit le côté très colonial de la question, parce que ce trope du grand remplacement qu'on a aujourd'hui dans des discours comme ceux d'Éric Zemmour ou de la droite ou de l'extrême droite, en fait, c'est un trope colonial qui est très ancien. Déjà, les colonisateurs, quand ils atterrissent dans des territoires qu'ils vont coloniser, comme en Amérique ou quoi, etc., et qu'ils installent des colonies là-bas, ils ont toujours la peur démographique qui s'installe comme une espèce de d'épée de Damoclès qui plane sur la colonie en permanence, que la colonie s'effondrerait sur le poids des colonisés. Et après, cette peur coloniale qui est réimportée aussi en France, en tout cas dans les métropoles des empires coloniaux, où il y a cette idée que les colonisés vont nous dépasser numériquement et vont nous faire en fait la même chose que ce qu'on leur a fait en retour, quoi. Donc voilà, c'est là qu'on voit qu'Israël s'inscrit dans le processus colonial vraiment à tous les niveaux.
Ouais, et ça amène aux pires extrémités, c'est-à-dire ça va de l'empêchement de mariage selon les zones que les Palestiniens habitent, à carrément les Éthiopiennes qui ont une contraception forcée qui leur est imposée par Israël à leur arrivée, puisqu'il y a une campagne qui est menée par Israël pour faire venir des falachas, donc des juifs éthiopiens. Ça fait partie des choses qui ont été mises en place parce que déjà ils avaient besoin de nombre, mais en plus ils commençaient à... Des questions commençaient à se poser sur la nature de cet État, clairement raciste. Et du coup, ils sont allés chercher à la fois des juifs dans les pays arabes, des juifs au Maghreb, et puis des falachas qui ont été traités super mal en arrivant, puisque, comme disait Fanon, une société est raciste ou ne l'est pas. Et donc, quand Israël est une société raciste, mais très raciste. Donc même entre les juifs, il y a toujours eu une hiérarchie, ce qui fait qu'il y a même, dès les années 70, d'ailleurs, il y a des mouvements, il y a un mouvement qui s'appelle les Panthères Noires d'Israël, qui sont les Arabes israéliens, les Israéliens, oui, qui viennent des pays arabes et qui créent un mouvement pour se battre contre le racisme qu'ils subissent dans l'État d'Israël.
On va faire une petite pause musicale.
Attends, avant la pause, j'ai une dernière question à te poser. Tu parles de colonisation, mais colonisation, c'est un mot un peu abstrait. Ça se passe comment? Ils achètent, c'est l'armée qui entre, ils foutent les gens dehors parce qu'ils ont des milices. Comment ça se passe, les colonisations?
Alors, c'est un peu tout ça, c'est-à-dire que avant même la création de l'État d'Israël, il y a ce qu'on appelle le Yishuv, c'est les organisations pré-étatiques qui préfigurent l'État d'Israël. Et dans ces organisations pré-étatiques, il y a notamment le KKL, Jewish National Fund en anglais. KKL, c'est en hébreu. Et ce KKL, il existe depuis bien avant la création de l'État d'Israël. Et il est chargé de récolter des fonds ici, dans les pays européens, et de financer le rachat de terres là-bas. Donc, il y a du rachat de terres. Mais dans les grandes opérations de dépossession, comme en 48, comme en 67, là, c'est carrément des expropriations, des démolitions de maisons, des vols de terre.
Mais avec l'accord de qui?
L'État d'Israël.
Oui, mais c'est l'État d'Israël, c'est sa police, son
oui,
armée.
Il a une armée, quoi.
Alors, il y a aussi, du coup, dans le Yishuv, il y a aussi des mouvements qui sont des mouvements armés, d'ailleurs, qui vont faire partir les Britanniques plus vite que prévu, en menant des attentats contre lui. Et il y a notamment un attentat qui est célèbre contre l'hôtel King David, où l'Empire anglais a ses généraux, etc. Donc il y a des groupes qui sont armés, donc il y a l'Irgun, le groupe CERN, voilà, des groupes qui vont devenir, finalement, qui vont se transformer en Tsahal après la création de l'État d'Israël, qui vont se transformer en l'armée régulière israélienne. Mais du coup, il y a utilisation de la violence avant même la création de l'État d'Israël, effectivement.
Merci. C'est la musique, là, non?
Oui.
تفضلوا شرفونا شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا الدموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفي البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونة كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنا إياه ثقافتنا بدنا إياه كرامتنا بدنا إياه كل شي إلنا بدنا إياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليك ليك لا بقلن يسرقوا شغلي مش إلهن ما خصن فيه قلدونا بلتبس لبس هالأرض بكفيهنش طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف تكونوا بشر قبل ما بتلبسوا كوفية جينا نذكرن مين إحنا وغصب عن أبوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفية لإنا وطنية الكوفية كوفية عربية من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربية يلا علي الكوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية عربية علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بتضل عربية ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني أي أمي بالدنيا أكتر مؤثرة الصورة واضحة نحن مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار إلى رام الله خليني شوف الكوفية البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسما أنا هجاه ديك العرب الثاني بخص غزب الثاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل أنا شاد يا منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك أنا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين سنة مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بدلني عأصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفية لأننا وطنية الكوفية كوفية عربية من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربية يلا علي الكوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية عربية علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بتضل عربية Woof, 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 woof
think it's a trend, a fashion statement. Disgustingly, I spit on the pavement. It's basic. Y'all know I bang for my flag. My bandana ain't no rag. The keffiyeh ain't no scarf. It's a part of the movement. The symbolism is resistance. No coincidence that you can see the RBG in it. Cable beneath the bandana. Ain't it beautiful? I say it in Spanish. It's solidarity. The feelings is mutual. Meanwhile, hi, that's M1 in Arabic. I'm pro-Falastini, does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah, but I'm still just Mutulu Olubala. So when I rep with Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air and let me know what side you on. Uhuru, yeah. The keffiyeh is Arab. Yeah, it's M1. Solidarity, feel me, Shaja. Do it. From the ghetto to Gaza. I keep it RBG up. Yeah. Bang for my flag.
Avant, c'était quoi, il y avait
89.4 Radio Libertaire. Nous sommes dans l'émission du groupe Pas de Quartier. Nous retrouvons François. Nous retrouvons Mariama. Et nous retrouvons Monira surtout.
Et toi, Sam.
Et moi. Sam, ah oui. Bien sûr. C'est quoi cette musique? Pourquoi tu l'as choisie?
J'ai choisi parce que j'aime beaucoup cette artiste palestinienne qui s'appelle Shadia Mansour. Et la chanson qui s'appelle El Keffiyeh Arabiyeh, c'est un hommage à au keffiyeh palestinien. On a vu, enfin on n'a pas vu, mais on va en parler, de à quel point la culture palestinienne elle est importante pour résister à l'effacement. Et il y a eu pas mal de tentatives de s'approprier le keffiyeh, de s'approprier la culture palestinienne en général, le houmous, voilà, et le keffiyeh aussi. Donc je trouve que c'est une belle façon de résister que de chanter, de chanter cette chanson sur le keffiyeh.
Eh ben, on est bien d'accord. Mais on y reviendra plus tard sur la culture palestinienne, parce que pour l'instant, on voudrait finir notre petite histoire de la Palestine. Et donc, la prochaine date importante sur laquelle il faut revenir, c'est les accords d'Oslo. Donc, c'est 93, il me semble.
Ouais.
Donc, en quoi ils sont importants, ces accords d'Oslo?
Ils sont importants parce qu'ils sont dramatiques, parce qu'ils scellent le destin palestinien tel qu'il existe actuellement. C'est-à-dire que jusqu'à ces accords d'Oslo, les Palestiniens sont relativement libres et continuent à mener voilà, une forme de résistance, voilà, de la résistance qui prend pas mal de formes différentes. À partir des accords d'Oslo qui sont vraiment poussés par l'Occident, enfin, il y a eu pas mal de conférences internationales où vraiment il y a eu des pressions occidentales pour que les Palestiniens reconnaissent Israël et
qu'ils acceptent. Est-ce que je peux t'interrompre pour te poser une petite question qui me vient? Je vois qu'ils sont en 93, donc c'est vraiment juste après la chute du bloc soviétique. Mmh. Ça a un lien, le fait que le bloc soviétique s'effondre et que ces accords-là soient pris juste après?
Je sais pas. Je peux pas dire si ça a un lien ou pas. Je connais pas. Pas assez cette partie de l'histoire. Du coup, je préfère parler de ceux que je connais.
Vas-y.
Mais il y a un lien qui est certain avec l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que il y a une situation d'apartheid dans l'Afrique du Sud qui n'est pas une situation totalement similaire à la situation des Palestiniens en Israël. Mais il y a des similitudes qui font que les Palestiniens se reconnaissent dans les Sud-Africains sous apartheid. Et il y a des liens qui sont clairs entre Nelson Mandela, l'ANC et les Palestiniens qui luttent. Et il y a des liens aussi, de l'autre côté, des États coloniaux. Il y a des liens du régime d'apartheid sud-africain avec le régime israélien qui essaye d'aller voir comment ils peuvent appliquer les mêmes politiques, notamment les Bantoustans. Et ça va alors, être une base pour les accords d'Oslo.
Les Bantoustans, ce sont les pays séparés, d'Afrique, les quartiers séparés, dans des territoires séparés, dans toute l'Afrique du Sud.
Est-ce que tu crois qu'on peut qualifier ça de réserve ethnique?
Tout à fait. Une réserve d'Indiens.
Ouais.
Il n'y a pas d'autre mot.
Et du coup, les accords d'Oslo, ils vont justement faire ça. C'est-à-dire que Donc on pousse l'OLP Yasser Arafat à accepter ces accords d'Oslo. Il accepte, donc il y a la fameuse poignée de main de Yasser Arafat et Yitzhak Rabin.
Sous l'égide de Clinton.
Exactement, tout à fait. Et il y a cette fameuse photo qu'on a en tête quand on pense à ça. Et en fait, à partir de là, ce que tout le monde va saluer comme des accords de paix, c'est en réalité un piège qui se referme sur les Palestiniens, c'est-à-dire qu'ils ont accepté de reconnaître l'État d'Israël et en échange, ils auront rien du tout. Et pire que rien du tout, puisque ils vont se retrouver avec une autorité palestinienne qui va se mettre à collaborer avec Israël et un morcellement de la Palestine, donc une fragmentation de la Cisjordanie en zones ABC. Donc des zones sous contrôle israélien, parce que c'est la zone C, c'est des zones qui sont classées zones militaires, etc. Donc ils perdent déjà la zone C à ce moment-là. Ensuite, il y a la zone B qui est sous contrôle conjoint entre Israël et la Palestine. Donc un contrôle conjoint, ça veut juste dire la collaboration.
La collaboration des polices.
La collaboration de la police palestinienne avec l'armée israélienne et les forces d'occupation. Et la zone A, qui sont des villes palestiniennes relativement autonomes, mais qui n'ont pas qui ne peuvent pas résister face à Israël de toute façon. C'est-à-dire qu'Israël se permet de rentrer dans les villes palestiniennes et peut arrêter. Et donc, il y a vraiment une collaboration qui s'installe à ce moment-là. Cette collaboration, non seulement elle existe toujours, mais elle a vraiment fragmenté la population palestinienne. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les Palestiniens se retrouvent avec des régimes juridiques séparés selon la zone dans laquelle ils se trouvent. Donc il y a des dépossessions énormes pour vider la zone C déjà, donc encore expropriation, etc. Faut pas oublier qu'il y a la construction de ce mur, du coup qui s'appelle la ligne verte, qui est censée être une séparation, et en fait qu'il y a un mur qui passe au milieu des villages palestiniens, qui passe des routes réservées aux colons, mais qui passe entre les villages palestiniens, etc. Donc il y a vraiment une construction d'enclave, et le mur...
C'est un mur qui va sous terre aussi, je crois, pour éviter la construction de tunnels.
Oui, carrément. En fait, on a tendance à oublier, on a tendance à imaginer que le mur, c'est la ligne verte, donc c'est juste un mur qui fait le long de la zone. Voilà. C'est pas du tout ça, c'est-à-dire que ce mur, il entoure des villes aussi complètement. C'est-à-dire qu'il y a des enclaves qui sont entourées par le mur. Et il y a des...
Qu'est-ce qui est protégé de qui? C'est les prisonniers qui sont protégés de l'extérieur ou c'est l'extérieur qui est protégé des gens emprisonnés dans leur ville?
En fait, c'est les quelques colons qui sont postés sur les collines en face qui sont soi-disant protégés des Palestiniens. Donc voilà, c'est vraiment les Palestiniens qui sont enfermés, qui sont enclavés, etc. Alors que les colons qui s'installent... qu'Israël installe, parce que y a toujours une tendance à faire comme si les colons c'était des individus autonomes qui allaient coloniser la Palestine. C'est pas du tout ça. Israël organise la colonisation, installe des colons sur des territoires et organise un aménagement du territoire avec ces colons en les mettant à des endroits où ils veulent chasser les Palestiniens, etc. Donc il y a vraiment cette organisation de la part d'Israël. Et du coup, le régime d'apartheid, il prend vraiment un essor spectaculaire à ce moment-là, puisque du coup, les Palestiniens, selon l'endroit où ils habitent, ils se retrouvent avec des régimes totalement différenciés.
Et donc, on a déjà employé un certain vocabulaire que, nous, on emploie ici parce qu'on est d'accord, mais qui peut faire controverse un petit peu, comme nettoyage ethnique, apartheid, etc. Il y a tout un enjeu sémantique sur ces termes-là, comme par exemple aussi les termes de camp de concentration ou de déportation, qui sont des termes qu'on refuse d'employer à l'égard de certains événements ou faits qui se déroulent en Palestine occupée. Est-ce que toi, tu pourrais, en deux mots, nous expliquer pourquoi c'est des termes qu'on peut effectivement employer sur la situation là-bas ?
Ouais, en fait, déjà, il faut dire que ces termes, donc nettoyage ethnique, apartheid, génocide qui est employé actuellement, Déportation, c'est du vocabulaire juridique qui est cadré par le droit international. C'est-à-dire que quand on utilise ce vocabulaire, c'est pas pour faire un effet de style ou pour choquer les gens. C'est vraiment parce que ça correspond à une réalité juridique et que on a besoin que cette réalité, elle soit reconnue et condamnée. Et du coup, quand on parle d'apartheid, on parle pas d'apartheid comme ça parce que ça nous fait plaisir. On parle d'apartheid parce que c'est un crime qui est condamné, qui est inscrit dans le statut de Rome.
Et imprescriptible.
Et imprescriptible, exactement. Et du coup, en fait, ce qu'on demande, c'est la justice et c'est la condamnation pour ces crimes qui sont commis. Ce qu'on constate quand même, c'est que dans le débat public européen et notamment français-allemand, il est très difficile de définir ce que vivent les Palestiniens. C'est-à-dire que chaque mot de vocabulaire qui est utilisé pour décrire un crime contre l'humanité envers les Palestiniens, il est toujours décrié comme s'ils n'avaient pas le droit d'utiliser. Donc on a vu la déportation de Salah Hamouri, donc qui est un citoyen palestinien de Jérusalem, qui est né à Jérusalem, qui a toujours vécu, qui a vécu plusieurs arrestations arbitraires, et à l'issue de sa dernière arrestation arbitraire l'année dernière, il a été déporté par Israël. Donc déporté, mis dans un avion, envoyé en France, sans possibilité de retour dans l'endroit où il est né, où il a grandi, où il a vécu.
Alors beaucoup de gens ont vécu ça quand ils étaient en Afrique du Sud, et la plus célèbre d'entre elles, qui a été mise dans un avion et envoyée à Londres, c'est quand même Madame Dulcie September. Elle a été exilée hors de son pays parce qu'elle était contre la politique d'apartheid des Blancs envers les Noirs et les Métis dont elle était, dont elle faisait partie. Donc, je veux dire, il y a un précédent. Il y a un précédent. Donc, et ça, tous ces termes ont été gravés dans le juridiquement. Donc, on n'est pas des juristes, mais on utilise des termes juridiques.
Ouais, tout à fait. Mais il faut dire aussi que concernant l'apartheid, par exemple, les militants de l'ANC, les gens d'Afrique du Sud qui ont subi l'apartheid, reconnaissent que les Palestiniens vivent un apartheid. C'est-à-dire que quand il y a un discours qui dit mais on peut pas parler d'apartheid parce que ça renvoie à l'Afrique du Sud, mais les militants d'Afrique du Sud, ils disent eux-mêmes oui, je reconnais que les Palestiniens vivent un truc qui est similaire à ce qu'on a vécu, qui n'est pas exactement la même chose, mais qui y ressemble et qui relève de l'apartheid. Et les Palestiniens, quand ils disent ça, quand ils parlent d'apartheid, les Palestiniens parlent d'apartheid depuis plus de 20 ans. Et c'est maintenant qu'on entend parler dans le débat public, parce qu'il y a eu des rapports. Donc en 2017, il y a eu un rapport de l'ONU, qui reconnaît l'apartheid contre les Palestiniens. Ensuite, il y a eu un rapport d'ONG israélienne.
Amnesty International, je crois.
Amnesty International, c'est le plus récent. C'est voilà. Du coup celui qui est tombé en dernier. Mais avant, il y avait eu Human Rights Watch. Il y avait eu des ONG israéliennes comme Yesh Din ou B'Tselem. Donc il y a eu vraiment beaucoup de rapports qui ont dit Israël pratique l'apartheid contre les Palestiniens.
Et mais vu les liens qu'il y avait entre Israël et l'Afrique du Sud, et le régime d'apartheid d'Afrique du Sud, ce n'est pas étonnant.
Exactement.
Je veux dire, penser que Israël, qui se revendique un état de protection suite à un génocide, accepte de collaborer avec des gens qui avaient comme idéaux ceux qui ont commis le génocide, parce qu'il faut, il faut expliquer ça historiquement aussi. L'Afrique du Sud, la politique d'apartheid, c'est un héritage nazi. Ce sont des gens qui admiraient les régimes nazis et qui l'ont importé en Afrique du Sud contre les Noirs et les Métis parce qu'ils avaient peur du grand remplacement. C'est pas autre chose. Donc il faut faire attention au point de vue histoire et replacer tout dans son contexte.
Ouais, je suis d'accord.
Et donc de penser que... Donc c'est pour ça que la colonisation, c'est quelque chose de grave. Parce que ça vous amène à aller vers des gens qui, historiquement, ne sont peut-être pas les mieux placés pour être vos amis.
Et d'ailleurs, les premiers génocides perpétués par les Allemands, on peut parler du génocide des Herero et des Namas.
Voilà, en Afrique de l'Est.
Voilà. Donc, comme tu dis, il y a une vraie continuité, en fait, dans le processus et génocidaire et d'apartheid qui se fait, en fait, entre les colons, l'Allemagne nazie.
Voilà.
Voilà.
Et du coup, pour clore sur la question du vocabulaire, donc on utilise le vocabulaire juridique. Par contre, on est d'accord qu'on ne va pas employer des termes qui s'appliquent spécifiquement à une oppression contre un peuple en particulier. Par exemple, on ne va jamais parler de Shoah pour les Palestiniens.
Non.
Il y a un terme qui existe pour les Palestiniens qui s'appelle Nakba. Voilà. Et dans aucune autre situation, on va parler de Nakba pour d'autres peuples que les Palestiniens. Donc il y a d'un côté des termes spécifiques à une situation qui existe à un moment donné dans un endroit donné. Et il y a des termes qui sont des termes juridiques et qui sont applicables à tout le monde, et même les Arabes.
Oui.
Et alors, revenons à la Cisjordanie et à l'autorité palestinienne. Peut-être, on va expliquer sa corruption, peut-être, non ?
Oui. Bah oui, c'est vrai qu'on a, on a déjà parlé de la collaboration, effectivement, des polices entre celles de l'autorité palestinienne et de, d'Israël.
Il y a sa corruption endémique.
Bah, c'est clair qu'il y a, clairement une corruption de l'autorité palestinienne. Il y a aussi une non-représentativité de l'autorité palestinienne, puisqu'elle n'a pas été élue depuis très longtemps. Déjà, Mahmoud Abbas, il avait été choisi par Israël. Il n'y a pas de, voilà, il y a plus d'élections, il y a plus de possibilités pour les Palestiniens d'avoir une vie démocratique. D'ailleurs, ce serait très bizarre que sous occupation, ils arrivent à avoir une vraie vie démocratique. Et du coup, l'autorité palestinienne ne représente plus personne, mais ils sont pas dans une situation où ils peuvent faire autrement, en fait. Pour l'instant, de l'extérieur, on peut avoir tendance à se dire, mais il faudrait qu'ils virent l'autorité palestinienne, etc. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça sur le terrain. Et, bon, et en plus, comme on n'est pas des colons, on ne va pas dire aux gens qui sont occupés ce qu'ils doivent faire. On va plutôt suivre, et c'est ce que je fais d'ailleurs à travers la campagne BDS, c'est-à-dire que c'est une campagne palestinienne qui s'appuie sur le fait qu'il y a un régime d'apartheid et qui demande le soutien à travers la campagne BDS. Et du coup, c'est, on soutient comme ils veulent. Mais on reconnaît qu'il y a, il y a évidemment une autorité palestinienne qui est complètement corrompue.
Alors, la campagne BDS, elle a ceci, elle a ceci de historique, c'est que la campagne de boycott contre ce qui se passait en Afrique du Sud a marché. À la fin de la chute du mur, sont libérés, notamment le plus vieux prisonnier du continent, c'est quand même Nelson Mandela, 27 ans de prison. Donc tout se libère et ils reconnaissent que la campagne de boycott et la campagne de pression civique mondiale contre l'apartheid a marché. Donc les Palestiniens demandent la même chose, qu'on fasse campagne pour que ça cesse. On est bien d'accord.
Ouais, complètement, je suis tout à fait d'accord, c'est parfait, parfaitement résumé.
Se rajoute par-dessus, par-dessus les problèmes que tu as évoqués pour les Palestiniens, celui du Hamas aussi.
Bah, c'est pareil, en fait. Donc, le Hamas, c'est un, c'est pas une création d'Israël, ce serait abusé de dire ça. Mais c'est un groupe qui se crée et qui se développe avec la bienveillance d'Israël, qui souhaite lutter de cette façon contre le Fatah, contre le groupe politique de Yasser Arafat. Du coup, c'est vraiment une façon de diviser et de choisir son ennemi, en fait. Voilà. Ils ont choisi un ennemi qui était moins populaire que celui qu'ils avaient en face. Et ils ont tout fait jusqu'à très récemment pour le favoriser, l'installer, etc. Et le blocus de Gaza a beaucoup contribué à donner de l'importance au Hamas, puisque le Hamas a été une force de... Du coup, le Hamas, c'est un mouvement politique, donc c'est pas juste une branche armée. Je pense qu'il faut le dire, parce que de l'extérieur, on a l'impression que c'est que des soldats, etc. Mais c'est pas ça du tout. En fait, c'est un mouvement politique voilà, large, avec un projet politique, etc., qui a fini par reconnaître Israël aussi. Qui a été, auprès des Palestiniens, un soutien dans tout ce qui est éducation, santé, etc. Donc les Palestiniens sont pas des fous. Ils n'ont pas choisi d'être représentés. Bon, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus choisi, du coup, parce qu'il y a blocus depuis 16 ans. Mais ils n'ont pas choisi d'être représentés par des gens qui étaient juste des monstres, machin. En fait, ils ont choisi d'être représentés par des gens qui redonnaient un peu de la dignité, qui donnaient de la santé, du soin, de la solidarité. Et
tout ce dont voilà. ils étaient privés. Exactement. Par un projet colonial.
Tout à fait.
Donc, il faut dire les choses.
Ouais.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc, le financement du Hamas, je tiens à revenir là-dessus. Il y a des journalistes qui ont fait un excellent travail. Je pense notamment à Charles Anderlin, qui a écrit un livre pour expliquer que le financement du Hamas était fait via le Qatar. Donc, le Qatar donne de l'argent au Hamas, mais il ne donne pas de l'argent aux Palestiniens. Il y a un distinguo. Parce que s'il donnait de l'argent aux Palestiniens, je crois que les Palestiniens vivraient beaucoup mieux dans la bande de Gaza que ce qu'ils vivent actuellement. Ce qu'ils vivaient jusqu'à il y a récemment.
Il faut dire aussi que on peut replacer en fait le financement et l'essor du Hamas dans un contexte plus large où les Occidentaux ont favorisé l'apparition de groupes islamistes dans toutes les régions du proche Moyen-Orient et même d'Afrique dans le but d'en faire leur ennemi commode, c'est-à-dire l'ennemi commode des démocraties, c'est le terroriste forcément. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans à peu près en fait tous les pays comme l'Afghanistan par exemple.
Oui, ça sous-tendait une intervention.
Voilà.
Ça permettait les interventions.
Ou comme l'intervention si on prend Barkhane ou Serval
en Afrique de l'Ouest.
C'est des interventions justifiées dans la fameuse lutte contre le terrorisme. Voilà. Donc ça s'inscrit vraiment dans une continuité quoi de. L'Occident colonial.
Je voudrais te poser une question. Quelle est la nature des relations entre le Hamas et l'OLP ? Enfin, pas l'OLP, la Palestine.
L'autorité palestinienne ?
Oui.
Alors,
est-ce que c'est le même pays coupé en deux ou est-ce que c'est deux pays différents dans l'esprit des Palestiniens ?
Bah, le Hamas est plus présent déjà à Gaza qu'en Cisjordanie.
Le Hamas est présent à Gaza. L'autorité palestinienne, du coup, elle est en Cisjordanie. Donc déjà, c'est deux endroits différents.
Voilà.
Ce qu'on peut constater, c'est que à chaque fois qu'il y a eu des tentatives d'union des mouvements palestiniens, il y a eu guerre derrière. C'est ce qui s'est passé plusieurs fois dans la dernière décennie. Du coup, il y a vraiment une volonté d'Israël de fragmenter au niveau du territoire, au niveau des Palestiniens, mais aussi au niveau des mouvements de résistance. Du coup, voilà, c'est important de préciser ça, je pense. Et sur la bande de Gaza, ce qu'on n'a pas dit, et je pense que c'est important de le dire, c'est que le siège de Gaza qui existe actuellement et qui existe depuis 16 ans, il a été organisé clairement par Israël et parfois avec un prétexte de bonne volonté. C'est-à-dire en 2004-2005, Sharon a décidé d'expulser les colonies qui étaient installées dans Gaza. Donc ça a été médiatiquement, ça a été traité comme un drame humain de gens qui devaient quitter leur terre, etc. Politiquement, c'était une stratégie très claire pour lui de débarrasser Gaza de ses citoyens juifs pour qu'ils puissent enfermer, du coup, avec le mur de sécurité qui existe actuellement, bombarder de façon régulière. Il faut savoir que la bande de Gaza, elle a subi des énormes bombardements en 2004, en 2009, en 2012, en 2014, en 2021 et maintenant. Donc il y a eu des bombardements très réguliers et que ce qu'on pense sur le coup être un signe de bonne volonté, en réalité, c'est toujours une organisation de l'occupation, une nouvelle organisation de l'occupation. Et c'était le cas avec les accords d'Oslo, où tout le monde a pris ça comme des accords de paix, et où les accords d'Oslo, le processus de paix devait durer 5 ans. Au bout de ces 5 ans, devait naître un État palestinien. Et en fait, entre la signature des accords d'Oslo en 93 et entre 95, où devait se signer Oslo 2, il y avait 30 000 colons qui avaient été installés en Cisjordanie à l'endroit de l'État palestinien. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de volonté de créer un État palestinien. Et cette question des deux États, il faut la remettre sur la table parce qu'elle a toujours été utilisée par Israël pour maintenir le statu quo et pour que les Palestiniens ne puissent pas avoir d'alternative.
Ce que je propose, c'est qu'on revienne sur cette solution à deux États après une petite pause musicale. Et on conclura l'émission sur ces questions d'actualité.
لازم احكي لك من لما عرفتك لو تعرف شو صار لي وشو قلبي مخبي لك لازم احكي لك من لما عرفتك لو تعرف شو صار لي وشو قلبي مخبي لك لازم احكي والليل بيسهر لك والنجمة تطوي لك لازم أحكي لك عيون الموج بتضحك لك والليل بيسهر لك والنجمة تطوي لك لازم أحكي
Pas de quartier du groupe Louise Michel. Nous sommes toujours avec François, Mariama et Monira pour parler de la Palestine. Et on était en train de parler des récents événements qu'on fait démarrer un petit peu arbitrairement le 7 octobre parce qu'il y a eu donc les attaques du Hamas sur le territoire israélien.
Pas que du Hamas. Ça, c'est vraiment la volonté israélienne de...
Il y a vraiment
eu une organisation. C'est vraiment... Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment une organisation qui a été planifiée depuis au moins un an. Et ça a été coordonné entre différentes factions palestiniennes. Et du coup, l'ennemi que Israël s'est choisi, c'est le Hamas, parce que c'est celui qui paraît le plus infréquentable et qu'il a construit comme l'ennemi absolu, qu'ils appellent le diable, etc., et qui justifie de bombarder des populations civiles, des enfants, etc. Mais en fait, c'est différentes factions de la société palestinienne. Il y a dedans le FPLP, le FDLP, le Hamas. Il y a vraiment plein de mouvements qui se sont réunis. Donc c'est important peut-être de ne pas prendre le discours israélien, pas dire Hamas.
Bah justement, c'était sur ça que je voulais t'interroger. C'est vrai que le narratif qui est donné dans les médias occidentaux, on nous parle d'une guerre entre Israël et le Hamas. Pour définir là l'opération génocidaire qui est actuellement en cours à Gaza, on nous parle d'une guerre contre le Hamas. Donc... Si on se place d'un point de vue historique, c'est vrai que c'est présenter une agression comme une légitime défense, c'est plus que récurrent, quoi. C'est quasiment systématique, en fait. Si on peut faire un petit rappel, l'Allemagne nazie, quand elle envahit la Pologne, elle prétend se défendre suite à une attaque de l'armée polonaise dans une tour radio. Vraiment, c'est un trope récurrent. Et donc, nous, en Occident, on n'a accès qu'à ce discours-là. Ce discours, c'est la guerre que mène Israël contre le terrorisme et donc contre le Hamas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ce discours actuellement ?
Alors, rappelez peut-être, comme on l'a fait depuis une heure, le côté colonial d'Israël et le fait qu'il y a un apartheid depuis très longtemps et que, comme le disait un écrivain que j'aime beaucoup, j'ai oublié son nom, il disait on ne peut pas mettre 2 millions de personnes dans une cocotte minute et ça s'imaginer qu'il ne va pas y avoir de conséquences.
Ah, je l'avais vu récemment, cette
citation. C'est Gideon Lévy, non ?
Non, c'est Warshawski.
Ah, Warshawski.
Voilà. Voilà.
Ouais, c'est Michel Warshawski.
Voilà, ça y est, je l'ai
mais
retrouvé.
Donc, puisqu'on parle de la continuité de la colonialité, c'est vrai qu'en France, non seulement, on va dire, dans les médias dont on s'attendait à ce qu'ils soient pro-Israël, BFM TV, CNews, etc., on a ce discours de la guerre entre Israël et le Hamas, mais en fait, on le retrouve aussi, bon, parce que dans ce que certains diraient, nos rangs, ou nos alliés, enfin bon, à gauche, quoi.
Dans les médias de gauche, ouais.
C'est vrai que nous, à Radio Libertaire ou chez les ANA, on n'est pas trop les potes de la gauche. Hein. Mais là, du coup, pour parler de Palestine, c'est vrai qu'à gauche, il y a une reprise majoritaire du discours colonial. Quand même.
Gauche ou droite ou centre ou Macron. Ou... Moi, j'en ai marre depuis l'attentat terroriste sur des citoyens israéliens. J'ai l'impression d'écouter la messe. Alors c'est tous les jours dimanche maintenant. C'est la messe anti-palestinienne. La messe, c'est l'unanimité. Je sais pas comment vous vivez ça, mais quand tout le monde semble d'accord, c'est toujours très très louche. Hein.
Tout à fait. C'est pour ça que François, nous avons décidé, nous au Groupe Louise Michel, de faire une émission pour expliquer ce qu'il fallait expliquer. Samuel a eu la gentillesse de s'y coller en préparation, et toi et moi, nous sommes à la co-animation ou en tant que candide.
Ah, je suis candide, ouais.
Voilà. Et on remercie Samuel. On remercie Mounira qui a fait un travail de décryptage de l'aspect colonial impeccable. Vraiment. Et on va revenir sur le côté colonial. Il ne faut pas l'oublier. Beaucoup de matériel qui sont actuellement lancés sur la population civile sont issus de ce qu'on appelle la tech israélienne. La tech israélienne, il faut savoir que dans le projet colonial israélien, il y a des dégrèvements et des aménagements fiscaux qui permettent qu'on favorise les équipements militaires et tout ce qui va aller à Tsahal et qui va aller à l'exportation. Et ils sont testés sur la bande de Gaza. Et il faut savoir que beaucoup de cette tech israélienne est financée via les paradis fiscaux. Israël est un paradis fiscal, judiciaire et bancaire. Donc, c'est un projet colonial. Donc, j'aimerais que de temps en temps, ceux qui veulent soutenir la Palestine disent les choses correctement et il n'y aurait pas d'amalgame et on ne les taxerait pas d'antisémites.
On les taxerait d'antisémites quand même.
On les taxerait quand même d'antisémites.
Non, parce que si on dit la vérité, si on dit les choses, on est difficilement taxable d'antisémitisme.
Franchement, moi, je pense avoir ce discours-là, de rappeler tout le temps la colonisation, l'occupation, l'apartheid. Et je suis traitée d'antisémite. Par exemple, la qualification d'antisémitisme, elle peut être très large. D'ailleurs, on a déjà dit que j'étais financée par le Hamas, par le Qatar, tout un tas de trucs bizarres. Alors que, bon, si vous avez des sous à me donner, les gens, faut m'en donner, hein, pas de problème. Mais pour l'instant, personne ne me donne de l'argent pour militer pour la Palestine, c'est juste un besoin de justice. Mais, par exemple, sur l'aspect génocide, c'est-à-dire que moi, je fais partie des gens qui ont envie d'être prudents avec les mots. En plus, je représente un mouvement qui est très sérieux. Et jusqu'à début octobre, j'utilisais pas le terme de génocide pour ce qui se passe en Palestine. C'est-à-dire qu'on parlait de nettoyage ethnique, mais on parlait pas de génocide. À partir du moment où les responsables de l'État israélien annoncent qu'ils vont détruire Gaza, qu'ils vont détruire massivement, qu'ils le font, qui se mettent à bombarder et qui tuent des personnes par milliers, qui bombardent des hôpitaux, qui laissent pas les gens se soigner, qui empêchent l'accès à l'eau potable, à la nourriture, aux médicaments, c'est une volonté de destruction d'un peuple, donc c'est un génocide.
Ah oui, mais il faut voir aussi comment ils le disent. Ils ont utilisé des termes d'animaux. Oui. Or, moi, la dernière fois que j'ai entendu parler de termes d'animal dans un, et qui a été une, un nettoyage ethnique qui a été ensuite reconnu comme un génocide, c'était au Rwanda. Oui. On parlait des cafards. Mmh. On allait nettoyer les cafards.
Oui, oui. Donc, tout à fait. L'animalisation va très bien avec la colonisation et va très bien avec la volonté de détruire toute partie d'un peuple.
Le mot génocide va malheureusement peut-être s'imposer au de l'ONU. Il va falloir le chef de la CPI veut se rendre en Israël et à Gaza pour constater les choses, parce qu'il a été saisi par beaucoup d'ONG, par la société civile, et j'espère qu'il va y avoir des poursuites. On ne peut pas faire ce qui se passe sans poursuite.
Le problème, c'est que là, il y a une impunité totale et que Israël ne laisse entrer personne dans Gaza et ne laisse pas entrer les journalistes internationaux, ne laisse pas entrer les enquêteurs. Il y a des personnels de l'ONU qui ont été tués dans les bombardements. Il y a 21 journalistes, alors je n'ai pas le chiffre peut-être aujourd'hui, parce que j'avais regardé il y a quelques jours, il y a 21 journalistes qui avaient été tués dans la bande de Gaza. Donc il y a vraiment une volonté aussi que l'information ne circule pas et qu'il n'y ait pas de possibilité de témoignage de ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. Et sur cette séquence, on a pu voir à quel point les médias, même les médias qui se disent de gauche, ont été vraiment très lâches et se sont contentés de relayer les communiqués de l'armée israélienne. Et ça, c'est vraiment inacceptable, parce que quiconque a étudié un minimum l'état colonial israélien a compris que Israël a créé un programme en 2005 qui s'appelle Brand Israël et qui vise à promouvoir l'État d'Israël comme si c'était une marque.
Tout à fait.
Et dans ce programme de Brand Israël, il y a une partie qui s'appelle la Hasbara. Donc, explication en hébreu. Et la Hasbara, c'est la propagande. Et au début, il y a carrément un ministère de la Hasbara qui est créé pour s'occuper de toute cette propagande, notamment la propagande de guerre. Et ensuite, le ministère est fermé et ça passe dans le ministère des Affaires stratégiques. Donc aujourd'hui, dans le ministère des Affaires stratégiques, il y a une partie qui s'occupe de la propagande. Et de la propagande de guerre, évidemment. Il y a une propagande qui est intense, c'est-à-dire que toutes les histoires... Et puis il y a des choses qui ont été démontées par des grands médias, hein, pas par des
médias
tiers, des petits indépendants.
Comme nous, mais des grands médias qui replacent les choses, qui ont le courage de le faire.
Bien sûr.
On les remercie. Mais ça n'a pas été simple de monter cette émission, parce qu'il fallait faire le tri. Il fallait vraiment faire le tri. Et merci Mounira, parce que toi, tu as la tête froide et tu as les outils. Merci à Samuel. Mais quiconque veut s'intéresser à ce projet colonial, il faut faire le tri déjà de l'information.
Oui, c'est
et
ce
n'est pas donné.
Ouais.
Parce qu'il y a effectivement en face une propagande efficace. Il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Mais
c'est un projet colonial qui est efficace.
Mais d'autant plus efficace qu'elle est relayée en France telle qu'elle. C'est-à-dire qu'il y a aussi, je pense qu'il ne faut pas se cacher non plus, le soutien de la France à Israël, c'est un soutien d'État colonial à un État colonial. C'est-à-dire que colon reconnaît colon, la France est un État colonial. Il y a des gens qui disent la France n'a pas fait la paix avec son passé colonial, mais c'est pas du passé en fait. La France est toujours un État colonial.
Et ça s'appelle la France-Afrique pour certaines parties.
Notamment la France-Afrique, mais aussi les territoires ultramarins.
Voilà.
Et la gestion des personnes non blanches dans les quartiers populaires ici en France, etc.
J'allais y venir.
Ça aussi, c'est un traitement colonial de population avec. Une circonscription des déplacements,
une ségrégation urbaine,
tout à fait,
une pratique du droit qui n'est pas la même. On a le cas d'un jeune Guinéen quelques jours avant Naël qui a été tué dans le dos, et les familles de ce proche, les proches de ce jeune homme, essaient toujours de faire la vérité, parce que le policier parle de légitime défense alors qu'il a tué ce jeune homme de 2 balles dans le dos.
Et il y a le CCIE qui a communiqué très récemment sur une femme qui en fait portait le voile et s'est fait abattre par un policier. Alors je crois qu'elle est à l'hôpital entre la vie et la mort, donc elle n'est pas encore morte entre guillemets, mais elle s'est fait tirer dessus et le policier en fait a prétexté
qu'elle était menaçante.
Voilà, qu'elle était menaçante et que c'était potentiellement une terroriste. En fait, c'était vrai qu'elle avait rien du tout sur elle, que c'était pas du tout une terroriste, et que juste elle portait le voile. Et donc, elle s'est fait tirer dessus, quoi. Et elle est à l'hôpital maintenant.
Entre la vie et la mort.
Entre la vie et la mort, juste pour avoir porté le voile en France, quoi, tout simplement.
Voilà.
J'avais pas cette information, mais c'est intéressant parce que on voit qu'on peut faire un lien
à la radio.
On peut faire un lien direct entre l'islamophobie ici. La politique sécuritaire autoritaire et ce qui se passe en Palestine-Israël. Et c'est pas pour rien si les populations non blanches se sentent particulièrement touchées par ce qui se passe en Palestine. C'est qu'il y a une reconnaissance d'un vécu. Il y a une reconnaissance, il y a des...
Reconnaissance d'un fait colonial.
Oui.
Disons les choses telles qu'elles sont. Oui, il y a reconnaissance d'un fait colonial. Je veux dire, à partir du moment où vous avez un parti politique... fondé par un ancien Waffen-SS et par un homme qui a fait la guerre d'Algérie et qui a été réputé pour y avoir torturé des opposants, le Front National, appelé RN, qui se met du côté d'Israël alors qu'ils ont un passé d'antisémitisme avéré et qui soutiennent Israël parce qu'ils tuent des Arabes, je veux dire, on marche sur la tête.
Ça s'appelle du contorsionnisme politique.
Ça. Mais
en fait,
sur la tête,
ça c'est vraiment la grande mode actuelle de se servir de l'ennemi numéro 2 pour taper sur l'ennemi numéro 1. C'est-à-dire que l'extrême droite, la droite, ils sont toujours antisémites en fait. Mais l'islamophobie est passée avant. Donc pour l'instant, on a besoin des juifs pour taper sur les musulmans. Mais si le RN était au pouvoir...
Oui, en fait, le RN est un petit peu partagé entre deux racismes. Et pour le moment, c'est l'islamophobie qui prend le pas. Mais en effet, ça n'empêche pas qu'il reste toujours antisémite, bien évidemment.
Il y a eu une petite phrase d'un humoriste qui résume très très bien. C'est Haroun qui a dit « L'extrême droite est tellement islamophobe qu'on en oublierait presque qu'elle est antisémite.
» Oui,
c'est exactement
c'est
ça.
C'est exactement ça.
Alors, revenons à Gaza. Nous avons appris il y a 2 jours... que, étant donné que l'aide ne passe pas, vu que l'Égypte s'oppose à ce qu'elle elle passe de façon normale, il y a sous les bombardements des opérations sans anesthésie, des enfants qui se font, excusez-moi, je suis émue de le dire, qui se font
charcuter. C'est ça le mot que tu cherches,
non ? Oui, mais il y a un terme...
Qui se font opérer ?
Qui se font opérer sans anesthésie. Et qui se font amputer sans anesthésie. On a fait cette émission pour réveiller les consciences des gens qui nous écoutent. Quand on en arrive à ce degré d'inhumanité, il faut rappeler d'où ça vient. Et d'où ça vient, c'est le côté colonial. C'est bien pour ça qu'on a intitulé notre émission... je vais y arriver... Samuel.
L'émission, c'est, on l'a intitulé, c'est Israël-Palestine. Pourquoi ce n'est pas un problème de religion ?
Voilà.
Parce qu'on en avait marre des gens qui nous expliquaient que, en fait, le problème d'Israël-Palestine, c'était la religion.
C'est un problème
colonial.
Alors que c'est un conflit colonial, éminemment colonial.
Et nous nous positionnons sur un conflit colonial. Et nous sommes anticolonialistes. Moi, la première.
Oui.
Par rapport à l'âge. Excuse-moi, Samuel.
Non, mais...
François,
t'as tout mon
pareil.
Respect,
merci. Et oui. Donc, c'est pour ça qu'on a insisté sur le côté colonial de l'État d'Israël.
Mais en tout cas, je pense que c'est important de pas accepter ce discours de la guerre Israël-Hamas. En fait, Israël mène la guerre aux Palestiniens depuis 75 ans. Et ça, il faut le redire, Israël mène la guerre aux Palestiniens. Et avant le 7 octobre, Israël menait déjà la guerre aux Palestiniens. Cette année, en 2023, entre le 1er janvier 2023 et le 6 octobre, 250 Palestiniens avaient été tués cette année. Comme ça, quotidiennement. Donc voilà, la guerre, elle existait bien avant le 7 octobre et elle a continué 75 ans de guerre contre les Palestiniens.
Et c'est vrai que juste avant l'émission, je lisais un communiqué d'un groupe anarchiste palestinien qui s'appelle le FODA, qui est disponible sur Paris Lutte Info si vous voulez aller le lire, et qui disait exactement ce que tu dis là. Il disait oui, là les événements, c'est important d'en parler parce qu'en plus il y a ce processus génocidaire encore à Gaza, mais il faut bien garder en tête que nous, c'est tous les jours on a des gens de notre famille qui se font arrêter, qui se font torturer en prison, des femmes qui se font violer, des meurtres, etc., etc. Et que ça, c'est le quotidien des Palestiniens depuis, voilà, comme tu disais, depuis le début, depuis la création de l'État d'Israël, et que là, le narratif du 7, c'est ça que j'essayais de dire, mais peut-être je l'ai dit maladroitement au début, mais quand je disais le 7 octobre, l'attaque terroriste du Hamas, c'est le narratif qu'ils ont essayé de créer sur ça, et je te rejoins sur le fait qu'il faut qu'on s'en détache totalement, quoi. Et parce que la date du 7 octobre, c'est une date qui est dans ce narratif colonial, alors que nous, si on veut proposer un vrai narratif décolonial et une vraie analyse décoloniale de la situation, il faut qu'on en sorte, quoi.
Et qu'on
parle bien du quotidien. Et justement, sur le côté génocidaire, il y a aussi la question de la disparition de la culture palestinienne. Et tu m'avais dit que ça te tenait à cœur d'en parler, justement, parce que on sait que dans le génocide, la disparition de la culture de la peuple et de l'existence historique d'un peuple et de sa culture, c'est fondamental. Et c'est aussi ce que font les Israéliens vis-à-vis des Palestiniens, finalement.
Ouais, il y a vraiment une volonté à la fois d'effacer la culture palestinienne et de... C'est un peu bizarre, hein, parce que, par exemple, à l'intérieur d'Israël, les Palestiniens sont soumis à des injonctions contradictoires, à la fois, et ça nous parle aussi en tant que Français non-blancs, c'est à la fois l'intégration totale et à la fois l'assignation. Donc il y a ce double jeu là qui existe et qui fait qu'on demande aux gens de plus manifester leur culture et à la fois mais on veut pas vivre avec eux, faire société avec eux. Et dans cette le pire en fait de ce processus, c'est l'appropriation. Et l'appropriation culturelle, on la voit beaucoup, notamment au niveau culinaire. C'est-à-dire que quand on entend parler de falafel israélien, de houmous israélien, ici à Paris aussi se créent des nouveaux restos dont les spécialités sont des spécialités palestiniennes étiquetées israéliennes. C'est vraiment le crachat au visage des Palestiniens qui essayent, eux, de maintenir un peu de leur culture. J'en profite pour vous faire un petit instant promo. Il y a un restaurant à Paris qui s'appelle Hardy, qui est un restaurant palestinien d'une copine, Rania, qui est, elle, palestinienne réfugiée, du coup, dont les parents, grands-parents ont été chassés pendant la Nakba. Et elle a créé ce restaurant parce qu'elle veut continuer à faire vivre la culture palestinienne ici. Et donc, c'est un restaurant, mais c'est aussi une boutique, un concept store. Et puis, elle organise des événements, des diffusions de films.
C'est dans quel arrondissement, tu sais?
Je suis pas très bonne dans la géographie.
Désolé. Alors, on va donner l'orthographe du restaurant.
Hardy, les gens... Ardi.
D'accord. Voilà, comme ça, les gens vont le retrouver sur Internet.
J'y suis déjà allée, mais je me rappelle pas.
Il y a aussi, tu parlais tout à l'heure de l'appropriation du kéfier, qui veulent...
Ouais, alors l'appropriation du kéfier, c'est vraiment un truc, on n'a pas parlé de la dimension capitaliste de l'État colonial israélien, et bon, c'est malheureux parce qu'on peut jamais tout dire en peu de temps, mais en tout cas...
C'est rare les émissions qui durent une heure et demie, dans les médias mainstream.
C'est vrai. Et du coup, l'État d'Israël, c'est un État donc du coup colonial capitaliste. Et du coup, ils arrivent à un endroit où la population est plutôt une population qui est une population paysanne, qui vit de la terre, des oliviers, de la culture, etc. Et du coup, il y a tout de suite une condescendance envers... tout de suite, en fait, Théodore Herzl, il y a des citations de Théodore Herzl où il dit « Il faut chasser la population pauvre ». Et quand il dit « Il faut chasser la population pauvre », c'est de la condescendance envers les paysans, envers les gens qui travaillent la terre. Et c'est pour qualifier les Arabes, en fait. Donc, il y a vraiment ce projet capitaliste. Et du coup, dans l'appropriation culturelle, il y a aussi des grandes marques qui se sont appropriées le kéfier. Donc, il y a... des grandes marques comme Gucci, des maisons comme ça, qui ont fait des genres de keffiyeh, des écharpes avec des motifs palestiniens. Et voilà, et ça, c'est vraiment le phénomène d'appropriation, à la fois coloniale, à la fois capitaliste, parce que c'est souvent lié.
Ils l'ont fait avec des choses africaines, d'Amérique du Sud, ils ont l'habitude. C'est un continuum chez eux.
Mais c'est aussi l'habitude coloniale de folkloriser la culture de celui qu'on a colonisé, quoi.
Et oui, c'est vrai que là, on est encore une fois dans le processus
colonial.
Dans le processus colonial.
On comptera combien de fois on a dit colonial.
Pas assez. Le mot qu'ils emploient là, à ce propos, c'est l'exotisme.
Oui, tout à fait.
C'était très à la mode.
Merci, François.
À la fin du 19e siècle.
Tout à fait.
Et début du 20e, c'est-à-dire en pleine période de, justement, colonialisme, excusez-moi si on se répète. Mais l'exotisme, c'est une façon de faire passer qu'on est en train de les asservir, les gens.
Parce qu'un génocide, c'est pas seulement physique, c'est aussi culturel. Mmh. Ouais. On l'a vu avec les Indiens, on l'a vu avec les Africains. Donc, les Palestiniens aussi.
Il y a l'exotisme, mais il y a aussi spécifiquement pour les Palestiniens, pour le Moyen-Orient, il y a l'orientalisme.
Oui.
Donc ça, c'est un livre d'Edouard Saïd que je ne peux que conseiller. Hein. Edouard Saïd, c'est un grand penseur palestinien qui a beaucoup réfléchi sur les questions dont on discute. Et... ouais, voilà, c'est une forme d'infériorisation. Dès la création de l'État d'Israël, les responsables d'État israélien appelaient ça la villa dans la jungle. Donc tout de suite, il y a la civilisation et la barbarie, et ce discours qui est encore très actuel des Palestiniens qui sont qualifiés soit d'animaux, soit de sauvages, de barbares. Donc il y a vraiment toujours ce truc de civilisation-barbarie qui date un peu quand même.
Oui, totalement, qui date de l'époque, de l'époque qui n'est pas révolue, mais coloniale, où il y a toujours la mission civilisatrice. Et c'est vrai que dans le projet sioniste, il y a vraiment cette idée qu'on arrive dans un espace qui n'est pas civilisé et que, en tant qu'Européen, on apporte la civilisation. Quoi.
Après, c'est assez marrant cette colonisation-là, parce que les Juifs, ils passent d'un statut de non-blanc ici, où ils sont infériorisés, discriminés.
Jusqu'au XIXe siècle.
Ouais, et en fait, à la création de l'État d'Israël, même après, et à la création de l'État d'Israël, le fait de représenter une enclave
européenne,
si je peux dire européenne, au Moyen-Orient, ça les blanchit. Et en fait, c'est de cette façon qu'ils vont en quelque sorte devenir des blancs, pas tous, pas ceux des pays arabes et de l'Éthiopie, mais ceux de l'Europe en tout cas.
Est-ce que tu auras un dernier mot pour conclure cette émission ?
Eh ben, je pense qu'il est très 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 important de maintenir la solidarité avec la Palestine, de continuer à diffuser leur histoire, leur vécu, de soutenir les campagnes BDS. Il y a une campagne qui a été lancée contre Carrefour. Carrefour, non seulement s'est installé l'année dernière dans des colonies israéliennes, en Israël et dans des colonies, mais en plus vient d'offrir des petits colis aux soldats israéliens pour soutenir l'effort de guerre à Gaza. Et ensuite, quand on a commencé à lancer une campagne de boycott contre eux, ils ont modifié leur post Instagram pour enlever toute référence à l'armée et au combat, donc en mettant juste qu'ils avaient offert des colis à des habitants. Et du coup, ça veut dire que ça marche et que ça fait peur. Et il faut continuer, je pense, à faire pression sur les entreprises qui participent à la colonisation.
Alors, on rappellera que H&M, qui est, pour les jeunes, qui est quelque chose de branché, fait les uniformes de Tsahal. Donc, n'y allez pas.
H&M, tu veux dire ?
H&M, oui. Oui, excuse-moi.
Ah, je ne savais pas.
H&M, oui.
D'accord.
Oui, c'est eux qui font les uniformes de Tsahal. Donc, on évite de leur acheter quoi que ce soit. Si on est jeune et branché.
Mais écoute,
il y a d'autres. Oui, il y a d'autres marques.
En tout cas, merci pour l'invitation à l'émission. Je pense que c'est très important de faire des émissions comme ça pour parler de la Palestine au maximum et de doubler par la gauche tous les médias qui font pas le travail et qui se contentent de relayer la propagande.
C'est le seul avantage du tiers secteur, c'est qu'on n'est pas mainstream, on n'est pas public, pas privé, mais on ne fait pas de quartier sur le sujet qu'on traite. Merci.
Puis alors, la gauche, moi, ce que je n'ai pas supporté, je vais vous le dire franchement, c'est qu'ils se sont servis de ce drame palestinien et israélien pour faire la guerre à qui ? Ah, Mélenchon. Ah, voilà. Il faut bien que ça serve à quelque chose, tout ce sang répandu. Hein,
je ne savais clair. Pas que tu étais pro-Mélenchon, je sais, François. Non,
mais je ne suis pas pro-Mélenchon.
Non, mais...
mais je suis contre la gauche actuelle, oui.
Mais
oui.
C'est vrai que sans être pro-Mélenchon, on a pu voir que chacun a pu régler ses comptes dans la NUPES ouais, en se servant allègrement de la Palestine. Voilà, mais en tout cas, on est toujours du côté des Palestiniens et des Palestiniennes, et il faut le rappeler sans cesse. Solidarité inconditionnelle avec les Palestiniens palestiniennes sous occupation et sous colonisation et sous apartheid.
Merci, Mounira.
Merci.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en 1027. Interrogez les rues d'un gars sans oublier les rues de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du toute Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, l'aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges, c'est qu'ils m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage.
Il avait son secret, le loup. Et 50 kilos de patates, un sac de sueur de bois, il te sortait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic. Un vrai magicien, le loup. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leur claque-merde.
J'ai collé une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner.
Allez. Attention, ceci n'est pas un exercice. Il alerte à la population et donc.
La connerie à ce point-là. Moi, je dis que ça devient gênant. c'est un peu ça le but dans la vie, non? Réussir à rien foutre.
J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur ma vieille bûche.
C'est chouette pour une métaphore, non?
C'est pas une métaphore. C'est que t'as des phrases. Enfin, moi, je suis. Ça, c'est une métaphore.
C'est de manie que tu as de cracher partout devant la race. T'es excessivement énervant.
Doute bien, t'as des excuses. Tu fais le dernier des métiers et ta mère était le plus beau code vérole tertiaire du département.
Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.